Te dire où est le titre du tout nouveau recueil de poésie de Sarah Dignard, publié aux éditions du Passage. Bonjour Sarah Dignard.
Bonjour.
Très beau recueil que le vôtre, je l'ai lu deux fois plutôt qu'une. Il faut dire que ça se lit, j'allais dire, quand même assez bien parce qu'il y a peu de mots, mais ce sont des mots forts, des mots rassemblés qui donnent quelque chose d'intime et de vrai. Comment vous qualifiez votre poésie, Sarah?
C'est vrai, c'est drôle parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui parle, qui a la parole assez facile.
Ah oui?
Mais étrangement, ce qui sort de moi en poésie est très, très méthodique. Donc, c'est une poésie, on m'a déjà décrit comme minimaliste. Puis je pense que ça convient quand même, là, ça donne une bonne idée du style.
Oui.
Des poèmes qui, des fois, ressemblent presque à des haïkus dans la forme, pas
oui,
dans le
des
contenu.
poèmes courts, là.
C'est ça, c'est des poèmes courts, puis chaque mot, comme vous le dites, est choisi. Je les compare toujours un peu à des pierres blanches. Je sais pas pourquoi, c'est une image qui, moi, me
Ah
touche,
oui.
comme pour retrouver un chemin. Et c'est ce qui sort de moi, donc, dans la création et le Finistère-là. C'est drôle parce que j'ai envie, des fois, de cheminer vers des projets de prose. Là, je suis aussi dans des projets d'albums jeunesse. Mais en poésie, c'est vraiment une poésie comme ça, là, qui émerge. Donc, c'est des poèmes assez courts, mais souvent, on peut les lire comme une trame continue. Comme dans ce recueil-là, par exemple, moi, je le conçois comme un grand poème, mais qui est séparé en plusieurs. Il y a une 80 pages à peu près, là. Donc, mais c'est une trame qui se lit d'un souffle, idéalement. Donc, tant mieux si on le lit plusieurs fois, en fait.
Oui, tout à fait. Puis, vous parlez de souffle, mais j'ai envie aussi de parler de silence. Je ne sais pas, on a besoin, on est complètement dans votre univers, là, dans le moment présent, pour utiliser un cliché, mais c'est ça quand même. Puis, on a besoin de silence pour entrer dans votre univers.
Ah, ben tant mieux, c'est vraiment...
Ouais.
J'avais répondu, je ne sais plus quand, dans ma jeunesse, on m'avait demandé pour une exposition, qu'est-ce qui était la poésie pour moi, puis j'avais répondu, ce silence où je parle enfin vrai.
Ah oui!
Donc, j'avais l'impression que le silence est comme majeur dans ma vie, puis dans ma vie de poète. En fait, dans mon travail de poésie, c'est vraiment...
essentiel.
La matière première, ouais.
Oui. Mais on le sent, on le ressent également. Et les histoires sont racontées autrement par la poésie. Et comment, vous nous disiez que ce recueil-là pouvait se lire en un trait, mais comment l'aborder? Quelqu'un qui n'a jamais lu de poésie, qu'est-ce que vous lui dites?
Je le compare toujours au travail de la peinture, à l'abstraction. Pour moi, la poésie, ça se rapproche de l'art visuel. C'est de la sculpture, c'est de la peinture. Donc, j'espère qu'on aborde les poèmes de la même façon qu'on aborde une peinture. Donc, on essaie de ne pas le faire passer par l'intellect, par la compréhension. C'est ce qu'on entend souvent, hein. Tu sais, je comprends pas.
Ouais.
Puis moi, je demande toujours, est-ce que tu ressens quelque chose? Puis même si, exemple, tu ressens rien, dans ce rien-là, il y a peut-être de l'agacement, il y a peut-être des intérêts, mais il y a quelque chose.
Ouais.
Donc, moi, j'espère qu'on aborde la poésie comme ça. Donc, on ouvre le livre, puis qu'on se laisse porter sans essayer de comprendre, mais juste voir qu'est-ce qui émerge. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont là? Puis je pense que dans mon recueil, il ne peut pas avoir pas d'émotions. C'est un recueil extrêmement intime. Donc, je pense que ça peut aller chercher en nous des zones intimes, en fait.
Mm-hmm. Mais on a l'impression que vous faites confiance aux lecteurs et aux lectrices, et ça fait très, très plaisir à lire. Quel genre d'émotions ou de réflexions même vous souhaitez transmettre à travers votre recueil?
Dans ce recueil-là, particulièrement, je voulais vraiment réfléchir à la transmission, au féminin, donc à la maternité, à ma propre maternité que je vais vivre un jour, j'espère. J'ai toujours rêvé d'être mère, mais aussi à ma mère, comment ma mère m'avait portée, tant physiquement qu'émotionnellement. Et il y avait aussi l'histoire de ma grand-mère qui s'était enlevée la vie, ma grand-mère maternelle.
Est-ce que c'est elle qu'on voit sur la photo en noir et blanc?
Oui. Oui, oui.
Elle a l'air tellement bien. Elle est en bikini sur une chaise de LifeGuard.
Oui, puis c'est drôle parce que c'est une des seules photos que j'ai d'elle, mais ce que je trouvais porteur, c'est qu'il y a quelqu'un, on dirait, à côté d'elle. Tu sais, je pense qu'elle mimait un peu comme si elle avait un amoureux à côté d'elle. Puis
oui.
C'est vraiment, je pense, dans son personnage, ça lui ressemble. Mais je trouvais que cette absence-là à côté d'elle, ben, en tout cas pour moi, était porteuse de sens. Là. Donc, c'est ça. Pour répondre à votre question, c'est un recueil qui est beaucoup sur la transmission, sur mon rapport à mon corps aussi de femme. Donc, c'est peut-être les deux messages centraux. Puis aussi, ben, il y a la question de la santé mentale. Moi, j'ai traversé un épuisement majeur là, où j'étais terrassée par des crises d'anxiété. Quand j'ai écrit ce recueil-là, là, je l'ai commencé en 2016.
Mm-hmm. Avant la pandémie.
Oui, bien avant la pandémie. Ouais. Mais c'est drôle parce que justement, j'ai beaucoup d'amies anxieuses autour de moi, puis on se dit qu'enfin, dans la pandémie, les gens peut-être sont au même à la même fréquence.
Vont comprendre qu'est-ce qu'on a vécu ou qu'est-ce qu'on sent souvent.
Oui, c'est ouais. Ça. Je pense que ça peut rejoindre tout le monde, qu'on en vive ou qu'on n'en vive pas de l'anxiété, mais qu'on se questionne sur la santé mentale, qu'on oui. n'est tous pas à l'abri de ces volcans-là intérieurs. Là.
Mm-hmm. Alors, est-ce que vous l'avez écrit en pleine crise d'anxiété? C'est ce que vous dites?
Parfois, mais je vous dirais plutôt en recul parce que...
On peut pas rien faire quand on... Ouais.
Non, c'est ça. Quand je l'ai commencé en 2016, je faisais mon mémoire de maîtrise sur Louise Dupré, le recueil Plus haut que les flammes. Mm-hmm. Donc, je réfléchissais d'abord à la transmission. Après, elle, dans le cas de Louise Dupré, c'est après l'horreur des camps de concentration. Elle se demandait comment encore convier une joie nécessaire à accompagner un enfant qui était son petit-fils. Moi, comment je l'interprète dans le recueil. Puis moi, ben, j'ai commencé à questionner donc comment, à partir du suicide de ma grand-mère, ma mère m'a donné vie et comment moi, un jour, je donnerai vie à mon tour. Oui. Donc, à ce moment-là, j'étais plutôt là-dedans. Puis, et au fil du temps et de l'épuisement qui m'a pris par surprise dans ma vie, là, il y a des poèmes là, plutôt sur l'anxiété qui sont arrivés, mais assez tard dans le processus. Ça a été presque 4 ans de travail quand même. Là.
Est-ce que vous l'avez devant vous, votre recueil?
Oui.
Oui, mais j'aimerais ça que vous nous lisiez un passage de votre choix.
OK, parfait. Vous m'arrêtez quand,
oui,
quand
oui.
c'est assez ou parfait. Je vous ai choisi, je me doutais, on dirait que vous alliez me demander ça. J'ai trouvé une section plus lumineuse qui est la dernière section qui s'appelle Éclaircie.
C'est à la page, à quelle page je vais vous suivre?
65.
Ça oui. commence par « Elle entre ».
Oui, « Elle entre ». Elle entre. Par la faille, la lumière est revenue. Là, je n'attends personne. Ses doigts savent le poids de la terre. Elle ne demande rien. Son amour sûr me soulève. Je la fais jouir jusqu'à cette pierre au fond d'elle où j'aime pleurer. Ce calme poreux où nous deviendrons mères.
Mais c'est très beau. Je ne sais pas si vous alliez continuer, mais je pense que ça nous donne une idée de l'esprit de votre plume. Je me demandais, Sarah Dignard, qui ou qu'est-ce qui vous a ouvert à la poésie?
Belle question. Je vous dis, ben, comme auteur, c'est vraiment Régent Duchamp. Donc, la vallée des avalées, c'est central dans ma vie. Ça a été comme une épiphanie. Je l'ai d'abord découvert par Léolo, le film de Jean-Claude Lauzon. Mais ça a été vraiment comme l'espèce d'instant révélateur. Là, j'ai découvert que par les mots, je pouvais être qui je voulais, je pouvais faire des voyages intérieurs et me sauver du réel. Puis après ça, je vous dirais que c'est l'adolescence. Là. Tu sais, ça peut sembler cliché, mais c'est ça, les premières peines d'amour.
Il s'en passe vraiment... des choses à l'adolescence.
Ah oui, c'est ça. Puis moi, j'étais une adolescente très sage qui lisait... C'était pas une fille de groupe, là, de fête, mais quand je suis arrivée au cégep, il y a comme quelque chose qui s'est passé parce que j'étais en résidence d'étudiante, donc plus seule là, face à moi. Ouais. Et là, j'ai développé plus ma pratique d'écriture de façon plus soutenue. Là.
Et vous parliez de liberté dans l'œuvre de Régent Ducharme. Et est-ce que c'est cette liberté-là que vous aimez le plus dans le genre littéraire? Est-ce que c'est la poésie permet ça plus que n'importe quel genre littéraire?
Oh, moi, je pense que oui. Mais moi, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais c'est ce qui me fait le plus vibrer. Les livres qui ont changé ma vie, c'est des livres de poésie. Puis, pardon, je trouve qu'on vit dans une réalité quand même assez... Il y a des contraintes. On vit dans un système économique, bon, etc. Il y a plein de contraintes. Puis la liberté suprême, pour moi, c'est d'écrire un poème qui nous fait révéler à nous-mêmes un silence, comme vous le disiez tantôt, qu'on n'avait jamais nommé comme ça. Puis tout est possible. Là, pour moi, il n'y a rien de plus grand. Mais bon, après, c'est, ma vision. Mais je suis extrêmement choyée, je trouve, d'avoir trouvé ça. Puis on est choyé comme lecteur et lectrice aussi d'avoir accès à des univers tellement nouveaux,
Ouais.
Comme des peintures aussi abstraites là, qu'on nous offre, là, qu'on nous tend comme un miroir de nous-mêmes.
Et en tant qu'écrivaine, est-ce que vous revenez souvent sur le métier? Comment ça se passe pour vous? C'est un premier jet ou vous êtes une travailleuse perfectionniste ou je ne sais pas?
Oh non, 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 c'est tellement de travail. Ben, dans mon cas, en tout cas, c'est de la première version là, de Te dire où en 2016 à maintenant, là, c'est incroyable, incroyable. Premièrement, il a été refusé une première fois. J'ai pas de tabou à en parler parce que je trouve que ça l'a propulsé, tu sais, cette œuvre-là. Je pense que c'est en 2018 le premier refus. Puis ça m'a vraiment poussé à complètement reprendre la trame et à aller au bout, en fait,
Oui.
du risque d'être tout nu, parce que mon but, c'était ça, d'être tout nu. Donc là, je suis vraiment tout nu. Mais donc, il y a beaucoup, non, non, il y a beaucoup, beaucoup de travail, là. Puis, tu sais, quand je donne des ateliers de poésie, des fois, au cégep, là, en ce moment, par exemple, j'en donne, puis je leur montre mes versions manuscrites où, moi, je travaille beaucoup au mur. Donc, tu sais, je travaille à la base sur l'ordinateur, là, je l'imprime, et après, je retravaille à la main, et je mets tout ça au mur. J'ai vraiment besoin de les voir, de les déplacer, les couper. Dans tous mes appartements, j'ai des corridors là, qui sont pleins quand je travaille, là, de mes poèmes. Donc, non, non, il y a beaucoup, beaucoup de retravail. Mais étrangement, en d'autres styles, comme là, je suis dans des projets jeunesse, c'est un peu moins... C'est différent, c'est plus d'un jet, puis après ça, il y a de la réécriture, mais moins... Moins sur chaque virgule,
Ouais.
qu'en poésie. La découpe des vers, notamment, me prend un temps, presque un an de travail,
Aïe,
souvent, là,
aïe, aïe.
de m'assurer que chaque vers est porteur, tu sais. Parce que moi, idéalement, j'aime ça que quand on lit chaque vers, il est indépendant les uns des autres, mais en même temps, il résonne avec ses voisins, là.
Et moi, j'en
Donc,
profite pour saluer les éditeurs ou les éditrices qui,
Oui.
justement, refusent parce qu'ils sentent qu'il y a encore du travail à faire. Et
Oui.
c'est vrai que ça vous a donné le coup de pouce pour continuer. Puis
Tout à fait.
offrir quelque chose dont vous êtes encore plus fier, j'imagine, quelque chose de plus achevé.
Oui, bien sûr. Oui. C'est une relation importante avec l'éditeur aussi,
Oh, oui.
ce rapport de confiance-là. Des fois, c'est pas facile, hein. C'est sûr que c'est pas facile. Puis en ce moment aussi, il travaille très fort dans la pandémie, donc c'est bien de les saluer. Puis en tout cas, moi, dans mon lien avec les éditions du passage, on a un chantier énorme quand on commence quelque chose. On a beaucoup d'allers-retours. Il y en a, je sais, il y a certaines autrices ou auteurs qui font moins d'allers-retours, mais nous, c'est très gros comme travail de collaboration,
Et
là.
ça donne un très beau livre et l'objet en tant que tel, là, tout crème avec un petit fil rouge sur le côté. Il y a un travail soigné, alors ça va bien avec votre poésie à vous. Te
Oui,
dire
on s'est
où?
trouvé.
Oui, Sarah Dignard, est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que la pandémie a un effet sur votre écriture actuellement?
Oui, ben en fait là j'ai du temps pour écrire, comme j'enseigne, moi je suis plutôt à la maison en ce moment. Donc oui, mais je vous dirais que j'ai le goût d'écrire sur tout sauf sur ça. J'ai besoin de beaucoup de lumière, je pense pas que je suis la seule. Donc c'est ça, je suis plus dans des écritures jeunesse, je revisite mes carnets d'enfance aussi, mes journaux intimes, je suis dans un début de quelque chose avec ça, plus en prose, mais ça me donne surtout plus de temps pour écrire. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça difficile. Moi, dans mon cas, ça m'aide à écrire.
Non, mais tant mieux, tant mieux. On va continuer de vous suivre, Sarah Dignard. Je rappelle le titre de votre recueil, Te dire où, aux éditions du Passage. Merci d'avoir été avec nous.
Hey, merci beaucoup pour aujourd'hui.